Dans la troisième épître de Jean, Jean est très âgé et il dit quelque chose. C'est Dieu qui parle au travers de lui et je voudrais que vous compreniez déjà ce que je vais vous lire. Mais vraiment, regardez cette parole. C'est Jean, c'est vrai, c'est un homme plein d'affection, plein d'amour,
quoique il a dit des choses très sévères aussi dans l'Apocalypse.
Mais je veux dire, c'est Dieu qui parle en vérité. Et dans la troisième épître de Jean, on le voit, on va lire les quatre premiers versets. L'épître porte pour titre, dans presque toutes les versions, « La marche dans la vérité ». Regardez ce que Jean dit à cet ancien, qui s'appelle Gaïus. « L'ancien à Gaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on me prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Est-ce que vous réalisez la teneur de cette parole que Dieu adresse à un homme qu'il considère comme un de ses bien-aimés? Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un « tu es mon bien-aimé », laissez-moi vous dire qu'il y a une communion profonde. Et si, par exemple, le cantique là, qu'on n'a pas chanté depuis 12 ans, moi je ne le fais pas chanter, tu peux le faire chanter, c'est pas grave. Mais je ne le fais pas chanter pour la simple unique raison qu'on dit dans ce cantique qu'on est l'ami du Seigneur. Et les gens, souvent, disent des choses qui ne sont pas vraies du tout. Parce que pour être l'ami du Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il faut faire ce qu'il nous demande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Et beaucoup de chrétiens ne font absolument pas ce que Dieu demande. Donc, nous voyons le cœur de Dieu qui est heureux, qui se réjouit parce qu'il voit un homme, un ancien, c'est un ancien qui s'occupait d'une œuvre, qui a un désir, c'est de marcher dans la vérité, de vivre dans la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on parle de vérité qu'on fait les choses n'importe comment au nom de la vérité. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au verset 13, il y a cette pédagogie biblique. Cet homme va pas, Jean ne va pas dire « Attends, je parle de vérité, je vais en profiter pour lui dire tout ce que j'ai à lui dire. » Non, mais c'est important, c'est important. Regardez au verset 13. « J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. » C'est là que nous voyons la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle de vérité qu'il faut dire les choses n'importe quand, n'importe comment, au nom de l'amour de la vérité. Je crois qu'il y a un temps pour tout, pour pouvoir dire certaines choses. Ce matin, bien sûr, je vais vous parler du combat spirituel, mais de l'importance d'être armé de vérité. Dans l'Épître aux Éphésiens, vous savez, je suis la prédication de mardi. Mais j'ai eu à cœur de la faire ce matin, même si beaucoup de chrétiens, si vous êtes tout nouveau, vous allez peut-être un peu avoir de mal à cerner. Il n'empêche que les chrétiens qui veulent voir l'œuvre de Dieu doivent être armés de vérité. Pas aimer la vérité intellectuellement ou surtout pour les autres, mais aimer la vérité et la vivre. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une épître que je vous encourage à lire, à méditer, à étudier. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a la conclusion de cette lettre sur le corps de Christ, qui est l'Église, et il nous est demandé, au verset 10 du chapitre 6, il nous est demandé ceci. Une chose est claire, Dieu veut que nous soyons forts. Vous êtes d'accord? On ne sera pas fort parce qu'on va chanter « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». On ne va pas être fort, ça ne va pas marcher comme ça. Laissez-moi vous dire que c'est un peu plus sérieux que ça. Fortifiez-vous dans le Seigneur. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous rendre forts, c'est Dieu. Et seulement Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Fils, ce n'est que la présence de Dieu qui peut nous fortifier. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Les autres armes, nous les aborderons, Dieu voulant, mardi, si nous poursuivons dans ce sujet, car je voudrais laisser la place, bien sûr, au Saint-Esprit de conduire la façon dont l'Église doit être édifiée. Il y a des années de cela, j'avais lu un témoignage, ça m'est venu à l'esprit quand je préparais cette prédication. C'est un pasteur c'est une histoire vraie. Je ne sais pas si c'est inspiré, si c'est conduit par Dieu, mais ça a le mérite de nous faire réfléchir. C'est un pasteur qui a été muté dans une église. Il est muté et il commence à prêcher. Et le dimanche, il prêche. Il prêche un sermon. Le dimanche qui suit, il prêche le même sermon. Exactement le même sermon. Le troisième dimanche, il prêche exactement mot à mot. Le même sermon. Et ainsi de suite, 7 ou 8 dimanches. Bon, au 7e ou 8e dimanche, les anciens ont réagi et ont été le voir. Et il nous dit, écoutez, monsieur le pasteur, votre prédication, c'est bien, etc. Mais bon, ça fait quand même 7 ou 8 fois que vous apportez la même prédication. Et pourquoi? Et le pasteur a répondu, eh bien, écoutez, quand vous obéirez à la première, on passera à la seconde. Alors, vous avez entendu? Quand vous obéirez à la première, on passera à la seconde. Je ne suis pas du tout sûr, moi je ne pourrais pas le faire, enfin, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. Ça rappelle une vérité, c'est que nous avons besoin d'entendre et de réentendre certaines choses. Ce qui est vrai, et que c'est certainement de l'orgueil de la part d'un pasteur de ne pas vouloir redire certaines choses au nom d'être critiqué parce qu'il n'aurait qu'une chose à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'empêche qu'il est nécessaire de rappeler certaines choses. L'apôtre Pierre dit, ces choses-là vous sont salutaires, c'est pour ça que je ne me lasse pas de les répéter. Et je vais peut-être répéter certaines choses ce matin, mais je pense que c'est sérieux. C'est sérieux parce que nous sommes dans les temps de la fin, l'apostasie est rentrée dans les églises, l'abandon de la foi pour ceux qui ignorent l'expression du terme, et si nous voulons véritablement voir Dieu se manifester, Dieu ne va pas se manifester parce qu'on va lui dire « manifeste-toi », même si on le lui dit en pleurant, même si on le dit à genoux, Dieu ne va pas se manifester comme ça. Ça, il y a longtemps qu'il se serait manifesté si c'était au décibel que Dieu avait dû se manifester. Dieu se manifeste parce que nous sommes en accord avec lui. Vous avez entendu? Parce que nous obéissons à sa parole. Alors, nous avons besoin de toute la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Mais, à des moments, nous avons besoin d'entendre certaines choses qui correspondent à la volonté de Dieu. Et je pense que l'Épître aux Éphésiens, c'est pour ça que je vous ai encouragé tout à l'heure à la lire, l'Épître aux Éphésiens contient la vérité dont l'Église a besoin actuellement. Je vous encourage à la méditer, je vous encourage même à lire un livre qui a été écrit sur les Éphésiens. C'est un livre de Washmani, c'est « Être assis, marcher et tenir ferme ». Ouais, c'est ça. « Être assis, marcher, tenir ferme ». C'est le titre du livre. C'est un très petit livre, il n'est pas cher du tout. Et même il serait cher, on vous l'offrira s'il le faut. Mais procurez-vous-le, commandez-le. Il explique, là, si vous voulez, le résumé de ce livre, comment on ne peut pas en arriver à combattre si on n'est pas d'abord assis dans les lieux célestes, assis dans l'obéissance. Parce qu'il est certain qu'il n'est pas possible pour certains chrétiens d'être armés de vérité s'ils vivent dans le mensonge. Vous comprenez bien? Vous savez, mon épouse me racontait dernièrement, ou ma fille me racontait dernièrement qu'il y avait une adote de l'église. Et écoutez bien, moi ça m'a fait mal au cœur. Une adote de l'église qui disait, je ne sais plus à ma fille ou à ma femme, voilà, je ne sais pas quoi faire à la maison. Ma maman, elle m'a demandé de dire, quand le téléphone sonne, dis que je ne suis pas là. Et ma fille ou ma femme a dit, mais si elle n'est pas chrétienne, ta maman. Mais si, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. De l'église. D'ici, plus quelle honte. Dis que je ne suis pas là. Là, on est loin d'avoir affaire à quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes, qui marche dans la vérité, et qui va pouvoir être fortifié dans le Seigneur. Parce que cette personne, son père, vous savez qui c'est? Le père des menteurs? C'est le diable. Et moi, ça me brise le cœur, je vous le dis franchement. Alors c'est vrai qu'on ne pourrait pas le dire, peut-être que la personne est là, peut-être que la personne va se vexer, j'espère qu'elle va réagir. Mais mes frères et sœurs, vous comprenez bien que quand Dieu dit à un ancien, ou un chrétien, une femme, un jeune, un enfant, à un vieux, à n'importe qui, je me réjouis, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que tu marches dans la vérité. La vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, c'est quelque chose que l'on doit vivre. Et je peux vous dire que le diable, il fera tout pour qu'on croie intellectuellement, mais pour qu'on n'expérimente pas ce sur quoi je vais vous prêcher ce matin. Le diable, vous le savez, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte l'état spirituel dans lequel ils se trouvent, l'état de grave dans lequel ils se trouvent par rapport à leur position. voyez, quand on dit, on répète, par exemple, notre frère, le jeune pasteur a répété, ou quelqu'un de sa prière a répété, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est toi qui l'as dit ? Ouais, bon. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Pas pour ceux qui vont à l'église et qui tranquillisent leur cœur en venant à l'église. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui entretiennent une véritable communion avec le Seigneur, ben c'est clair, il n'y a aucune condamnation. Et là, je crois, parce qu'il y a une vraie communion, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et moi, je ne voudrais pas qu'un jour Dieu me reproche, parce qu'il m'a repris souvent, pas maintenant, mais il y a des années, par rapport à cette sévérité, parce qu'il faut considérer ces choses avec beaucoup de sérieux. J'espère que vous voulez aller au ciel. Oui, vous n'êtes pas là juste parce que vous ne saviez pas quoi faire ce matin. Je pense que vous êtes là parce que vous voulez être debout lorsque le Seigneur Jésus va revenir chercher l'Église. Alors nous voulons que Dieu fasse certaines choses. J'ai entendu vos prières et j'ai dit amen à vos prières. Et mercredi et mardi soir, on priera et si c'est d'accord, que ta volonté soit faite, on va dire amen. Mais je veux vous dire, parce que c'est biblique, je peux vous l'expliquer et j'espère devoir le faire. Dieu veut faire certaines choses. Vous le comprenez bien. Est-ce que Dieu veut sauver tous nos enfants ? C'est même pas la peine de répondre. Est-ce que Dieu veut sauver nos amis ? Est-ce que Dieu veut sauver nos ennemis ? Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ? Bien sûr que oui. Mais il ne le fera pas si nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il faut que l'Église soit en accord avec lui. Il faut que nous vivions dans l'obéissance. C'est pour ça que c'est important de marcher dans la vérité. Un chrétien... Je suis sûr que si on demandait à beaucoup de chrétiens de dire en 10 lignes, mais c'est quoi un chrétien, on devrait le faire. Est-ce qu'on le fait ? Tiens, on arrête le culte et non, je ne veux pas avoir une attaque ce soir. Mais si vous deviez écrire sur un papier, en 10 lignes, voilà ce qu'est un chrétien. Qu'est-ce que vous écririez ? Franchement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Pas du tout pour s'immiscer, mais vraiment pour comprendre la piété superficielle de beaucoup de chrétiens parmi nous. Et un chrétien, il doit comprendre certaines choses. Un chrétien, par exemple, il doit vivre dans le repos. Oui ou non, un chrétien doit vivre dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Apprenez de moi ou recevez de moi, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Un chrétien, la première chose qu'il obtient lorsqu'il vient vraiment à Jésus et qu'il y reste, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils font un petit aller-retour comme ça, le dimanche matin, un petit aller-retour à l'église, coucou, me voilà, c'est moi, et on ne les voit plus de la semaine, et ça encore, ce n'est pas méchant. Mais le problème, c'est que toute la semaine, ils sont plus intéressés, tout à l'heure, je parlais de The Voice, je peux vous dire qu'ils sont plus intéressés par The Voice, ça, il ne faut pas le manquer. Mais la réunion de prière, où on a à cœur d'avoir un local qui nous permettrait d'accueillir les âmes, ça, ce n'est pas grave. Mais je peux vous dire que si vous en êtes là, ça ne va pas du tout avec Dieu. Je pense qu'on a le droit de se détendre. Est-ce qu'on peut se détendre ? Mais je pense qu'un vrai chrétien, il apprend ce qu'est vraiment le repos. Il n'a pas besoin d'aller se détendre dans plein de trucs qui sont inutiles. Deuxièmement, un chrétien, il doit combattre. Oui ou non ? Cet épître aux Éphésiens se conclut avec cet enseignement. Vous avez à lutter. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du combat ? Est-ce que vous allez faire comme certains ? Ah, mais moi, j'en ai assez dans mon boulot, ça me suffit, j'ai assez de combats au boulot, j'ai assez de combats avec ma femme, voyez ? Ouais. J'entends ça, moi, dans l'église où Dieu m'a placé. Et ce n'est pas du tout avec mépris, mais surtout pas avec mépris. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas enclenché le processus de s'asseoir dans les lieux célestes, de marcher dans l'amour et de combattre le bon combat de la foi. Car s'il y a bien une chose qu'on a dit au Seigneur, peut-être on n'a même pas fait gaffe, mais quand on a dit au Seigneur le jour de notre baptême, c'est qu'on lui donnait notre vie et qu'elle ne nous appartenait plus. C'est pas ça qu'on lui a dit au Seigneur. Ma vie, je te la donne, Seigneur, je te donne ma vie, je prends le baptême et je ne fais pas du cinéma. Hein. J'ai vu des gens, moi, pleurer, c'est pour vous dire que les émotions, ça ne veut rien dire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je prends le baptême et je me souviens de ce frère qui est venu pendant... Après son baptême, il est venu aller 2 mois à l'église, deux mois, longtemps. Il est venu à l'église et puis un jour, je dis, mais vous venez plus à l'église ? Il me dit non. Et pourquoi ? Ah, mais vous savez, hier au boulot, on m'a demandé, mais où t'étais hier ? J'ai dit à l'église, on s'est moqué de moi. Alors moi, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Alors je vais plus à l'église. Et je vous assure, quand il a pris le baptême, vraiment, je le connais bien, ce frère. Cet ex-frère, il avait fait des expériences vraiment des expériences. Ce n'est pas parce qu'on fait des expériences que notre conversion et notre nouvelle naissance est réelle. Parce que quand on lit l'Évangile, le Seigneur, de suite dans Matthieu, au Sermon sur la montagne, Jésus le dit, on se moquera de vous. Oui ou non? Moi, c'est une des premières choses que j'ai lues, et ça n'a pas tardé, 3 ou 4 jours après, comme au travail, on s'est moqué de moi. Mais je le savais. C'est pour vous dire que les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et un chrétien, il doit vivre dans le repos. S'il y a bien une chose qui permettra à un chrétien d'être utile, c'est d'être dans le repos. Si nous ne sommes pas dans le repos, c'est que nous n'écoutons pas les instructions du Seigneur. Si nous ne combattons pas, eh bien, c'est que Jésus-Christ n'est pas notre Seigneur. Parce que la Bible dit, vous avez à lutter. Non pas contre les gens, parce que là aussi, on a vite fait de lutter contre les gens. C'est vrai ou c'est pas vrai? De lutter contre la chair. Ah, c'est lui, et il m'énerve, et on entend aujourd'hui des mots, et il me saoule. Excusez-moi, c'est des mots que j'aime pas utiliser. Mais vous les comprenez très bien. Et ça vous montre combien les gens n'ont pas de piété. Parce que je crois que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on doit avoir plein de miséricorde. Pour tout le monde, mes frères et sœurs. Oui, il y a un combat. Il y a un combat. Alors ce combat, peut-être qu'il vous inquiète, mais c'est Dieu qui combat pour vous quand vous obéissez. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelle le bon combat de la foi. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas combattre parce qu'ils n'ont pas pris le soin de comprendre ce que c'était. Peut-être que c'est nous les pasteurs qui n'avons pas suffisamment expliqué ce à quoi il correspondait. Mais un chrétien doit savoir comment entrer dans le repos. Ça, je l'ai expliqué maintes fois il y a un an et demi. Au moins une vingtaine de fois, 20 prédications, mais un chrétien doit savoir comment il doit combattre. Sinon, il sera toujours dans l'égarement, dans la défaite. Jérémie, dans un chant, disait peut-être que quelqu'un n'arrive pas dans la victoire. Ben oui, parce qu'il ne sait pas comment il doit être armé. Et le Seigneur dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, prenez toutes les armes de Dieu. Le seul fait d'entendre un verbe actif comme prenez engage notre volonté. Et mes frères et sœurs, tout avancera dans la grâce et dans la paix si nous vivons dans le repos et si nous combattons le bon combat. Déborah s'est levée, vous vous rappelez, j'en ai parlé il y a 15 jours, elle s'est levée comme une mère. On ne se lève pas comme pour faire le ménage. Les gens qui se lèvent pour faire la révolution, je peux vous dire que Dieu les fait rasseoir. On se lève avec un cœur de mère. Vous savez comment c'est une mère avec ses enfants? Vous avez vu une vraie maman vers ses enfants? Comment elle va le passer la nuit quand il est malade? C'est vrai ou c'est pas vrai? Les mamans qui sont là. Et Déborah, elle a dit ce qu'il fallait qu'elle dise. Je me suis levée comme une mère. Pourtant, elle avait de quoi rouspéter. Laissez-moi vous le dire. Dans l'église du Seigneur, Dieu utilise les gens qui se lèvent comme une mère. Elle savait ce qu'il fallait faire pour gagner la bataille. Et vous savez comment du ciel on a combattu parce que cette femme savait combattre le bon combat. Oui, il y a des principautés. Oui, il y a des dominations. Oui, il y a des esprits méchants. Oui, il y a des démons, etc. Ça se passe pas sur terre forcément. C'est dans l'invisible. Mais il y a un combat, mes frères et sœurs. Est-ce que vous le savez qu'il y a un combat? Il y a vraiment un combat. Est-ce que vous êtes conscient qu'il faut le mener ce combat? Il faut que le peuple de Dieu soit béni. Nous voulons que les pécheurs soient bénis. Vous êtes d'accord? Mais combien parmi nous ont besoin d'être délivrés de certaines choses, de certains péchés? Ça peut arriver. C'est Jacob. Hier, je lisais Job. C'est Job qui dit, mais six fois j'ai crié et 6 fois l'Éternel m'a délivré de mes angoisses. Et Job a eu des angoisses. Bon, on comprend. Mais est-ce que c'est normal d'avoir des angoisses? Ben oui, c'est normal, on est fait de chair et on a des moments difficiles. Mais il a été délivré. Et je crois que l'Église a besoin de réexpérimenter certaines choses, d'avoir des victoires. Et pour cela, il ne faut pas l'apprendre intellectuellement. Cette prédication, vous pouvez dire, mais oui, c'est bien, c'est vrai, c'est d'accord, je suis d'accord avec M. Gaud. Mais ça ne veut rien, ce n'est pas parce que vous êtes d'accord que ça va vous servir. Vous devez dire, mais Seigneur, il faut que tu parles à mon cœur. Il ne faut pas que je le croie de tout mon cœur. Vous allez, quelqu'un qui connaît la Bible va dire, mais de toute façon, tout ce qu'il a dit, c'est biblique. Donc voilà, je le crois de tout mon cœur. Il prêche avec ferveur. Ça va suffire. On peut le croire de tout son cœur. On peut prêcher avec ferveur. On peut prêcher avec zèle. On peut prier avec larmes, supplier Dieu de le faire. Si on n'obéit pas, il ne le fera pas. L'obéissance, je l'ai redit, vaut mieux que les sacrifices. Il ne faut pas croire ces choses. Il ne faut pas les prêcher avec ferveur, avoir une piété à faire pleurer les chaises. Ça ne sert à rien. Il faut l'expérimenter. Et je nous pose la question dans l'Église. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Qui veut expérimenter cette affaire-là, de vraiment vivre dans la vérité. Qui veut l'expérimenter? Qui ce matin? Parce que Dieu, parce que moi je pose la question, si c'est moi, c'est bien parce que c'est intéressant, mais si c'est Dieu qui vous la pose au travers de mon ministère, moi je vous assure que c'est sérieux. Qui veut, non pas entendre la vérité, mais comme Dieu le dit à Gaius, avoir la joie. Là oui, on peut parler d'amis. Là, on peut en parler d'amis. Vous êtes mes amis. Il a dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Là, on peut parler d'amitié. Quelqu'un qui dit, c'est vrai, je veux l'expérimenter. Parce que l'expérimenter, le temps du culte, vous êtes tous d'accord. Si vous aimez la Bible, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec le message parce que vous savez que c'est biblique. Mais mes frères et sœurs, qui veut expérimenter cette marche dans la vérité, cette arme de la vérité, car c'est la première arme que Dieu demande que le chrétien prenne pour combattre ce bon combat, mais ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, il faut la vivre, la vérité. D'ailleurs, si vous êtes toujours dans les Éphésiens, j'en parlais mardi soir à l'étude biblique, mais la vérité, elle doit être professée, elle ne doit pas être confessée. Il y a une grande, grande différence entre confesser la vérité et la vivre. En ce moment, je confesse la vérité, mais il n'y a que Dieu qui sait si je la professe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que Dieu qui sait. Et par exemple, dans Éphésiens, chapitre 4, quand vous lisez tout l'enseignement sur le fait que Dieu a donné des pasteurs, etc., à l'Église, dans un but bien précis, il dit, au verset 15, il conclut en disant qu'en fin de compte, les pasteurs ont été donnés, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais, verset 15, en professant la vérité dans l'amour. Il n'est pas dit en confessant la vérité. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Pourquoi des chrétiens ne grandissent pas spirituellement? Vous les voyez 3 ans après, ils n'ont fait aucun progrès. Vous les voyez 10 ans après, ils n'ont fait aucun progrès. Ils sont toujours dans le même état de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas professé la vérité. Ils l'ont dit, ça on peut la dire, même pasteur peut la dire très bien, comme j'essaie de le faire en toute humilité, c'est vrai. Mais la question que vous pourriez me poser, dire, mais monsieur Gros, tu la confesses, la vérité, ou tu la professes? Parce que si je veux grandir avec Dieu, il n'est pas question que je prêche bien. Il est question que l'on vive, que l'on professe la vérité. La vérité, elle doit produire quelque chose. Quand il est dit un peu plus loin, au verset 22, quand il nous est demandé de nous dépouiller du vieil homme, par rapport à notre vie passée, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence. Regardez la suite. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors, regardez bien la suite. Il faut s'y arrêter. Souvent, je vais trop vite quand je prêche. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la vérité, lorsqu'elle est professée, elle produit incontournablement de la sainteté et de la justice. Pas de la justification, puisque ça, c'est réglé par le sang du Seigneur. Une marche dans la justice, c'est-à-dire, oui, je le fais. Tu me demandes, par exemple, après, il a dit, tiens, tu me demandes de travailler, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais travaille pour avoir à donner de quoi à celui qui est dans le besoin. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont feignants. Ils profitent de tout pour ne pas travailler. Vous croyez que ça, Dieu va le bénir? Moi, j'ai vu une chrétienne qui profitait de la société pour ne pas travailler. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux, cette affaire. Après, on dit, Seigneur, réveille l'Église. Oui, réveille l'Église. Je pense qu'il y a des choses et des péchés qu'il faut absolument régler. Là, alors, on pourrait prendre plein de temps. On va le faire. Je sais que le temps va me manquer, mais on poursuivra mardi. Parce que c'est une affaire sérieuse, mes frères et sœurs. Vous savez, je cherche Dieu. Je ne cherche pas à faire des belles prédications. Ça a pu m'arriver dans le passé, parce qu'on a envie de bien prêcher et tout ça. Bon, mais ça, c'est pas... Je pense que Dieu l'a vu. Bon, c'est pas intelligent, mais Dieu l'a vu. On ne doit pas chercher, je le dis aux jeunes, on ne doit pas chercher des prédications. On doit chercher Dieu. La pensée de Dieu pour l'Église. Parce que, croyez-moi, mes frères et sœurs, si on ne professe pas la vérité, on ne verra rien. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je ne sais pas, je vous repose la question, parce que quand même, ça m'inquiète aussi. Est-ce que vraiment, attendez avant de répondre, mais répondez au Seigneur quand même. Est-ce que vraiment vous voulez voir la gloire de Dieu? Je vous pose la question, je le dis, mais très sérieusement. Ce n'est pas des questions pièges que Dieu bénirait certainement pas. Mais c'est une question que je peux adresser, que Dieu doit adresser à l'Église. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris du fardeau des âmes? Vous voyez cette maman chrétienne qui disait à sa fille de 15 ans, « Si c'est pour moi, tu dis que je ne suis pas là. » Mais mes frères et sœurs, mais c'est archi grave. Je ne sais pas s'il faut que nous nous y arrêtions. Mais mes frères et sœurs, c'est archi grave. Vous allez me dire, oh, c'est pas grave, Dieu pardonne le mensonge. Mais moi, je vous dis que c'est beaucoup plus grave que ça. Et je pourrais multiplier, hélas, les exemples. Un homme nouveau, il est créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Demeurons fermes, dira Paul, enfin Paul, dans les Hébreux, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La vérité, c'est une âme. Je me souviens, le pasteur qui m'a formé m'a dit, Gérard, la vérité, ne la dis pas, vis-la. Ah, ça m'a marqué ça. Et je sais que c'est vrai. Et je ne l'ai pas toujours vécu. Je vous ai dit mon mauvais témoignage qui remonte maintenant à un mois et demi par rapport à un comportement que j'avais eu. J'en ai honte. Mais cette vérité, la vérité, prenez par-dessus tout cette arme de la vérité. Quand il est dit, prenons, j'ai mis quelques exemples, vous allez voir qu'ils sont infinis. Quiconque prononce le nom du Seigneur, vous connaissez la suite, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous connaissez la suite. Il n'y a pas dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, il y a des vases utiles et inutiles. Et il dit, si tu te conserves pur, en t'abstenant de tout un tas de choses mondaines, tu seras un vase utile. Donc, vous voyez, la vérité, c'est ça. Je prononce le nom du Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur, j'espère comme Seigneur, je prononce le nom du Seigneur, la parole est catégorique. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous pourrions prendre, mais on devrait le faire, je vois que le temps va m'empêcher. Mais c'est écrit, ce sont des choses qui sont écrites. Vous pouvez prendre n'importe quel texte biblique, où vous voyez la bénédiction de Dieu, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, parce que je connais la Bible, c'est peut-être la seule chose que j'ai de bien. Mais je peux vous dire, quand Job dit par exemple, mais attache-toi à Dieu, et tu auras la paix, et tu seras béni, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et on peut prendre tous les exemples. On va prendre un autre exemple qui me vient à l'esprit. Si je vous donne tous les exemples qui me viennent à l'esprit, on n'est pas sorti. Jacques, chapitre 1er. Prenons un exemple. Je voudrais nous aider, parce que je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on travaille à l'importance de comprendre ce que ça veut dire être armé de vérité, être assis dans les lieux célestes, de marcher dans l'amour et d'être dans le bon combat de la foi. Regardez, tout le monde connaît ce verset de Jacques, chapitre 1er, verset 16. C'est le verset 17 qui nous intéresse. Tout le monde le connaît. Si vous venez ici depuis plus de 3 mois, vous l'avez entendu 5 ou 6 fois. Par exemple, Jacques, chapitre 1er, verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Ça paraît être un pléonasme, mais ce n'est pas un pléonasme. C'est pour qu'on comprenne bien que la bénédiction, elle vient de Dieu. Toutes les bénédictions viennent de Dieu. « Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, etc., etc. » Après, il part de la colère, qui n'accomplit, au verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et verset 21, c'est pourquoi cette conjonction de coordination, cette conjonction, vous me suivez, il y a une conjonction avec tout le reste. Monsieur Olé, qui enseigne depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, 50 ans, non, c'est ça? Ça fait combien, oui. N'arrête pas de nous dire, lorsqu'il nous forme à côté, ne prenez pas un verset au détriment de son contexte. C'est pas vrai? Cherchez le contexte. Alors c'est vrai que nous pouvons mettre sur un petit signet le verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Seigneur, je m'attends à la grâce, à la bénédiction et au don. Mais il faudrait mettre tout. Parce qu'il est quand même dit, c'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Un chrétien, il rejette la souillure. Vous entendez? Et il pourra dire, la grâce de Dieu me sera communiquée. Toute grâce me viendra, je le sais, c'est Dieu qui bénit. Vous voulez la bénédiction du Seigneur? On la veut. Et je ne pense pas que c'est être égoïste que de vouloir la bénédiction de Dieu, parce qu'on sait que Dieu veut que nous vivions dans l'abondance. Est-ce que vous voulez la bénédiction du Seigneur? Ben ouais. Mais voyez, elle ne viendra pas parce qu'on répéterait en boucle, moi je le sais, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ce n'est pas vrai. La grâce de Dieu descend d'en haut sur tous ceux qui rejette la souillure et tout débordement de méchanceté. Et la colère, parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Après, on s'étonne que certains chrétiens ne fassent pas l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas compliqué. Ils n'ont pas été armés de vérité, ils n'ont pas eu leur pensée captive, parce que la Bible nous demande d'avoir des pensées captives, c'est-à-dire que tout ce qui est vrai, voilà encore la vérité, soit l'objet de vos pensées. Et je suis comme tout le monde, si nous marchons selon la chair, nous ne devons pas combattre selon la chair. Et je me suis dit, non, je refuse. Et je veux bénir cette situation. Parce que je pense que c'est ça la vérité. Est-ce que c'est écrit, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est ça la vérité. Et pour marcher dans la vérité, c'est sûr qu'il faut être fortifié dans le Seigneur. Si je vis dans le mensonge, si j'aime le monde... La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'est pas en lui. Alors c'est clair.
Oui, personne ne m'aime. De toute façon, personne ne m'aime dans cette église. Personne ne m'aime. J'ai entendu ça d'une personne qui est partie il y a quelque temps. J'ai dit, mais le problème, ce n'est pas les autres. C'est que vous n'avez pas d'amour.
Bon, bien sûr, ça vraiment pas. Là, je n'ai peut-être pas été fin. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Parce que quand on aime les autres, on ne souffre pas du manque d'amour. Mais si vous l'avez expérimenté, vous savez que je n'exagère pas. Quand votre cœur est rempli de l'amour du Seigneur, vous ne souffrez pas du manque d'amour. Parce que Dieu vous remplit d'amour. Et je crois que c'est ça, être armé de vérité. Il faut être sérieux, mes frères et sœurs. Je vous le dis, l'Église, c'est pas que le sérieux, c'est la spiritualité. Mais si on n'est pas sérieux, on ne sera pas spirituel. Il faut être sérieux avec la parole de Dieu. À la pastorale du début du mois, il y a un pasteur qui prêchait et qui a expliqué quelque chose. Dans la voiture, il avait mis une radio, je ne suis pas trop sûr, mais je crois que c'était une radio. Et il a écouté une journaliste qui interviewait un sataniste. Et cette journaliste lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on prie. On prie, on ne prie pas Dieu, on prie Satan. Ah bon, vous priez? Oui, on prie, on jeûne. On jeûne et on prie pour que les chrétiens divorcent. Pour que les pasteurs abandonnent le ministère. On prie pour que les pasteurs divorcent. Il a dit tout un tas de trucs. Mais en entendant ça, je le savais. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez pourquoi je vous parle du repos et du combat? Et que la vérité, il ne faut pas la dire aux autres. C'est trop facile de dire, tu devrais faire aussi. Ça tient, ça, c'est très enfantin. La vérité, il faut que chacun d'entre nous la vivions. Et je crois que notre Dieu, notre Père, va nous aider à vivre vraiment dans la vérité, à ne pas prendre des versets, parce que beaucoup de chrétiens se gargarisent de ces versets. Le matin, ils ont un carnet, une boîte à promesses, et ils prennent, clac, une promesse. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Ah, merci Seigneur. Ah, tu sais pas ce que j'ai lu ce matin, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Si vous faites ce que M. Olé enseigne, vous allez voir qu'il y a vraiment un enseignement à propos que Dieu pourvoira aux besoins des chrétiens de Philippe parce qu'ils ont aidé l'église de Thessalonique et ils se sont impliqués et ils ont donné pour répondre aux besoins des autres. Et quand vous aidez les besoins des autres, laissez-moi vous dire que Dieu s'occupe des vôtres. Mais ça aussi, je ne comprends pas, Dieu ne pourvoit pas. Mais sérieusement, est-ce que ma vie, puisque je l'ai donnée à Jésus, normalement, on est le temple du Saint-Esprit, notre vie ne nous appartient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Si vous êtes chrétien, votre vie ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous de dire, voilà, je fais ci, je fais ça, je sais de quoi je parle. Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, peut-être à telle réunion, c'est ma place. Je ne dis pas ça pour vous dire d'une manière détournée. Venez aux réunions. Mais vous devez demander à Dieu. Quelle est ma place? Peut-être qu'il faut tout revoir à zéro et dire, Seigneur, il faut que je trouve le repos. Est-ce que vous croyez que dans ce monde catastrophé, est-ce qu'on peut trouver le repos? Mais oui. Est-ce qu'on peut vivre dans la lumière? Est-ce qu'on peut vivre dans la vérité? Est-ce que Dieu pourrait dire, je l'espère que Dieu dira à quelqu'un prochainement, mais je n'ai pas de plus grande joie dans un culte personnel, dans un moment de communion avec Dieu, dans un don spirituel. Est-ce que vous aimeriez pas que Dieu vous dise, je n'ai pas de plus grande joie de te voir marcher dans la vérité? Et peut-être qu'il faut reprendre le Nouveau Testament, mais comme un enfant qui reprend la lecture du Nouveau Testament et de dire, bon, mais je vais m'arrêter sur chaque
précepte, sur chaque commandement, sur chaque conseil, parce que c'est rempli de préceptes. Et un chrétien ne peut pas combattre s'il n'aime pas. Moi, quand j'entends, non, mais franchement, je vous assure, ici, dans cette église, quand j'entends quelqu'un qui me dit, oh, celui-là, il me saoule, d'un frère de l'église, moi, je me pose la question. Je me pose la question. Des fois, je me culpabilise, je me dis, c'est toi qui as mal prêché. Mais je ne pense pas. Parce que je pense que Moïse prêchait bien. Je pense qu'un certain Jésus prêchait très bien. Ça n'a pas empêché un certain Judas de laisser Satan entrer dans son cœur. Parce qu'il aimait l'argent. Et je voudrais, mes frères et sœurs, on continuera parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais mes frères et sœurs, la vérité, il faut la vivre. Pas de 10h à midi le dimanche, il faut la vivre tout le temps, jour et nuit. Dans notre chambre, dans notre bureau, dans notre voiture, partout, jour et nuit. Et si on a péché, demandons-lui pardon. Vraiment, demandons-lui pardon. Et achetons, vous avez compris l'expression, parce qu'il y a un prix, achetons de l'or éprouvé par le feu afin de devenir riche, achetons des vêtements blancs afin que la honte de notre dignité ne paraisse pas quand on va passer devant Dieu. Et achetons un collier pour oindre nos yeux. Moi je l'ai fait, je vous ai parlé l'autre fois de ce film que j'avais regardé avec quelques grossièretés. Combien j'ai eu honte. En plus je suis pasteur et j'aime l'église et je veux les... Mais comment Dieu m'a, avec amour, mais avec sévérité, m'a repris, m'a montré que j'étais un hypocrite, parce qu'il faut dire les choses par leur nom. Prêcher sur la sainteté et regarder un film avec des grossièretés, moi je veux vous dire que c'est le comble de l'hypocrisie, en plus quand on prêche. Mais Dieu m'a repris, j'ai compris. Quand il m'a dit que la résistance était aussi coupable que l'idolâtrie. On va demander au Seigneur qu'il nous aide. Ce sujet sur le combat, je veux le juxtaposer avec le repos, parce que ça marche avec. Et ça doit être bien. Ça doit être merveilleux, le bon combat de la foi. Mais mes frères et sœurs, marchons-nous dans la vérité. Professez-vous la vérité. Si quelques-uns parmi nous vivaient dans le mensonge, dans la haine, dans l'irritation, repentez-vous. Faites-le. Pas là, peut-être maintenant. Mais peut-être chez vous, ce soir, plutôt que de regarder la télé, peut-être de vous agenouiller au pied de votre lit et dire, Seigneur, parle-moi. Il vous parlera mieux que moi j'ai pu le faire. Il vous parlera, vous le savez. Vous le savez qu'il vous parlera. Que Dieu puisse te dire un jour, mon frère, que Dieu puisse te dire à toi et à moi, j'ai pas de plus grande joie de te voir marcher dans la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui aspire à cela? On est tous recueillis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit dans son cœur, mais c'est vrai ce que vous avez dit, Monsieur Hugo. The voice, c'est plus important que le salut des âmes. C'est plus important pour moi. Repentez-vous, repentons-nous. Et laissons le Saint-Esprit conduire tous ces moments. Moi, je voudrais vraiment qu'on soit tous unis, mes frères et sœurs. Parce que c'est ce que Dieu attend. Tous unis dans l'amour, dans la vérité, dans le combat, dans le repos, dans la joie. Parce que ces choses-là ne peuvent pas mener la défaite, c'est impossible. Mais y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, mais moi, je veux, parce que je vais passer devant Dieu, je veux que ça soit super. Mes frères et sœurs, que chacun d'entre nous fasse ce que Dieu lui demande. Écoutez cette dernière exhortation. Que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Notre Père, si les pécheurs, comme tu le dis dans ta parole, sont inexcusables, rien qu'en regardant la création, alors nous, tes enfants, combien nous le sommes moins, puisque nous avons ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux que nous participions à la nature divine. Aide-nous à entrer dans ce repos, à marcher dans l'amour, à combattre ce beau combat, parce que c'est toi qui combattras.
Oui, nous voulons que tous nos enfants soient sauvés. Tu vois les 50 enfants, petits-enfants de M. Blanc, mais tu vois tous les petits-enfants qu'on représente. Nous voulons les voir dans ta maison, tous, tous convertis. Parce que nous savons que c'est ta volonté. Tu ne nous as pas donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer. Nous voulons tous les voir t'appartenir, Seigneur. Tous. Fléchir le genou avant qu'ils ne partent dans l'éternité. C'est pour cela que nous te prions de nous pardonner vraiment. Pour toutes les fois où nous n'avons pas marché et vécu dans la vérité. Seigneur, tu vois cette église. Tu as un plan, tu as des projets. Tu l'as promis que tu avais des projets de paix. Un avenir, de l'espérance. Tu as dit que tu avais des projets, des œuvres dans lesquelles nous devrions rentrer. C'est notre prière de vouloir entrer dans tes projets, dans tes œuvres. Alors Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous dans cette marche. Conduis-nous dans cette grâce. Que vraiment ton nom soit sanctifié. Tu vois, celui ou celle qui est attaché au péché, tu es capable de le délivrer. Tu es un Dieu de délivrance. Tu as vu combien tu m'as aidé, Seigneur. Merci, Jésus. Mais fais-le pour tous, que nous puissions vivre dans la vérité, parce que c'est ta volonté. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Bénis les prochaines réunions. Seigneur, tu vois ce prochain stagiaire qui risque de venir. Mon Dieu, bénis-le. Bénis la famille de ce pasteur qui est décédé à Tahiti. Seigneur, fais leur grâce et bénis l'Église, afin qu'un homme se lève. Oui, fais lever des hommes, Seigneur, qui se lèveront vraiment pour te servir. Fais lever des serviteurs, Seigneur Jésus, pour la gloire et l'honneur de ton nom, pour le salut de nos enfants, si tu tardes à venir. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.